Il lâche son fusil et tente de retrouver un second souffle. Il ne devrait pas attendre et tout de suite escalader la pente de l'entonnoir, courir après Pradel, lui tirer dans le dos, lui sauter à la gorge. Ou rejoindre les autres, leur parler, crier, faire quelque chose, il ne sait pas vraiment quoi. Mais il se sent très fatigué. L'épuisement vient de le gagner, parce que tout ça est tellement bête. C'est comme s'il avait posé sa valise, comme s'il était arrivé. Il voudrait remonter là-haut, qu'il ne le pourrait pas. Il était à deux doigts d'en finir avec cette guerre, et le voilà au fond du trou. Il s'effondre plus qu'il ne s'assoit et se prend la tête dans les mains. Il tente d'analyser correctement la situation, mais son moral vient de fondre d'un seul coup, comme un sorbet. Un de ceux que Cécile adore, au citron, qui lui font grincer les dents avec une mimique de petit chat qui donne à Albert l'envie de la serrer contre lui. Justement, Cécile, sa dernière lettre remonte à quand? C'est ça aussi qui l'a épuisé. Il n'en a parlé avec personne. Les lettres de Cécile sont devenues moins longues. Comme c'est bientôt fini, la guerre, elle lui écrit comme si c'était complètement fini, que ça n'était plus la peine de s'étendre. Pour certains qui ont des familles entières, ça n'est pas pareil. Il y a toujours des lettres qui arrivent, mais pour lui, qui n'a que Cécile. Il y a bien sa mère aussi, mais elle est plus fatigante qu'autre chose. Ses lettres ressemblent à sa conversation, si elle pouvait tout décider à sa place. C'est tout ça qui l'a usé, rongé Albert, en plus de tous les copains qui sont morts et auxquels il voudrait ne pas trop penser. Il en a déjà vécu, des moments de découragement, mais là, ça tombe mal, justement à l'instant où il aurait besoin de toute son énergie. Il ne saurait pas dire pourquoi. Quelque chose en lui a soudainement lâché. Il le sent dans son ventre. Ça ressemble à une immense fatigue et c'est lourd comme de la pierre. Un refus obstiné, quelque chose d'infiniment passif et serein, comme une fin de quelque chose. Lorsqu'il s'est engagé, quand il essayait d'imaginer la guerre, comme beaucoup, il pensait secrètement qu'en cas de difficulté, il n'aurait qu'à faire le mort. Il s'effondrerait, ou même, dans un souci de vraisemblance, il pousserait un hurlement en faisant mine de recevoir une balle en plein cœur. Il lui suffirait ensuite de rester allongé et d'attendre que les choses se calment. La nuit venue, il ramperait jusqu'au corps d'un autre camarade, vraiment mort celui-là, dont il volerait les papiers. Après quoi, il reprendrait sa marche reptilienne des heures et des heures, s'arrêtant et retenant sa respiration lorsque des voix se feraient entendre dans la nuit. Avec mille précautions, il avancerait jusqu'à trouver enfin une route qu'il suivrait vers le nord ou vers le sud, selon les versions. En marchant, il apprendrait par cœur tous les éléments de sa nouvelle identité. Puis il tomberait sur une unité égarée dont le caporal-chef, un grand type... Bref, comme on voit, pour un caissier de banque, Albert a un esprit assez romanesque. Sans doute, les fantasmes de Madame Maillard l'ont-ils influencé. Au début du conflit, cette vision sentimentale, il l'a partagée avec bien d'autres. Il voyait des troupes sanglées dans de beaux uniformes rouges et bleus, avancer en rang serré vers une armée adverse saisie de panique. Les soldats pointaient devant eux leurs baïonnettes étincelantes, tandis que la fumée éparse de quelques obus confirmait la déroute de l'ennemi. Au fond, Albert s'est engagé dans une guerre stendhalienne et il s'est retrouvé dans une tuerie prosaïque et barbare qui a provoqué 1000 morts par jour pendant 50 mois. Pour en avoir une idée, il suffirait de s'élever un peu, de regarder le décor autour de son trou. Un sol dont la végétation a totalement disparu, criblé de milliers de trous d'obus, parsemé de centaines de corps en décomposition dont l'odeur pestilentielle vous monte au cœur toute la journée. À la première accalmie, des rats gros comme des lièvres cavale avec sauvagerie d'un cadavre à l'autre pour disputer aux mouches les restes que les vers ont déjà entamés. Il sait tout ça, Albert, parce qu'il a été brancardier dans l'Aisne et que, lorsqu'il ne trouvait plus de blessés gémissants ou hurlants, il ramassait toutes sortes de corps à tous les stades de la putréfaction. Il en connaît un rayon dans ce domaine. C'était un travail ingrat pour lui, qui a toujours eu le cœur pointu. Et comble de malchance, pour quelqu'un qui, dans quelques instants, va être enseveli vivant, il souffre d'un petit fond de claustrophobie. Tout gamin, à l'idée que sa mère risquait de fermer la porte de sa chambre en partant, il sentait monter des écœurements. Il ne disait rien, restait couché. Il ne voulait pas peiner sa mère qui expliquait toujours qu'elle avait déjà bien des malheurs, mais la nuit, le noir, ça l'impressionnait. Et même plus tard, il n'y a pas si longtemps, avec Cécile, quand il jouait dans les draps, lorsqu'il se retrouvait entièrement recouvert, il perdait sa respiration, la panique le gagnait. D'autant que, parfois, Cécile le serrait entre ses jambes pour le retenir. « Pour voir », disait-elle en riant. Bref, mourir étouffé est la mort qui lui ferait le plus peur. Heureusement, il n'y pense pas, sinon, à côté de ce qu'il attend, être prisonnier des cuisses soyeuses de Cécile, même avec la tête sous les draps, c'est paradisiaque. S'il pensait à ça, ça lui donnerait envie de mourir, à Albert. Ce qui tomberait d'ailleurs pas mal, car c'est ce qui va se passer. Mais pas tout de suite. Tout à l'heure, quand l'obus décisif va s'écraser à quelques mètres de son abri et soulever une gerbe de terre haute comme un mur qui va s'effondrer et le recouvrir tout entier, il ne lui restera pas longtemps à vivre, ce sera toutefois suffisant pour se rendre vraiment compte de ce qui lui arrive. Albert sera pris d'un désir sauvage de survivre comme doivent le ressentir les rats de laboratoire quand on les saisit par les pattes arrière ou les porcs qu'on va égorger, les vaches qu'on va abattre, une sorte de résistance primitive. Il va falloir attendre un peu pour cela. Attendre que ses poumons blanchissent à la recherche de l'air, que son corps s'épuise dans une tentative désespérée pour se dégager, que sa tête menace d'exploser, que son esprit soit gagné par la folie. Enfin, n'anticipons pas. Albert se retourne, regarde une dernière fois vers le haut. Ça n'est pas si loin que ça, finalement. Simplement, c'est trop loin pour lui. Il tâche de rassembler ses forces, de ne penser à rien d'autre que ça, remonter, sortir de ce trou. Il reprend son barda, son fusil, sa grippe et, malgré la fatigue, commence à escalader la pente. Pas facile. Ses pieds glissent sur l'argile boueuse, ne trouvent pas de prise, il a beau enfoncer ses doigts dans la terre, cogner de toutes ses forces de la pointe du pied pour tenter de se ménager des appuis, rien n'y fait, il retombe. Il se déleste alors de son fusil, de son sac, s'il fallait se déshabiller tout entier, il n'hésiterait pas. Il se vautre contre la paroi, et recommence à ramper sur le ventre. Ses gestes sont ceux d'un écureuil dans une cage. Il gratte dans le vide et retombe toujours au même endroit. Il hâne, il geint, puis il hurle. La panique le gagne. Il sent monter les larmes, tape du poing contre le mur de glaise. Le bord n'est pas si loin, merde, quoi. En tendant le bras, il pourrait presque le toucher. Mais ses semelles patinent, chaque centimètre conquis est aussitôt reperdu. « Il faut sortir de ce putain de trou », se hurle-t-il, « et il va y arriver. Mourir, oui, un jour, mais non, pas maintenant, ce serait trop bête. Il va sortir de là, et le lieutenant Pradel, il ira le chercher jusque chez les Boches s'il le faut, il le trouvera et il le tuera. Ça lui donne du courage, l'idée de buter cet enculé. » Il s'arrête un instant sur ce triste constat. Les Boches, depuis plus de 4 ans qu'ils essayent, n'ont pas réussi à le tuer, et c'est un officier français qui va le faire. Merde. Albert s'agenouille et ouvre son sac. Il sort tout, pose son car entre ses jambes, il va étendre sa capote contre la paroi glissante, planter dans la terre tout ce qu'il a sous la main pour servir de crampon, il se tourne, et c'est exactement à ce moment-là que l'obus fait entendre quelques dizaines de mètres au-dessus de lui. Soudain inquiet, Albert lève la tête. Depuis 4 ans, il a appris à distinguer les obus de 75 des 95, les 105 des 120. Sur celui-là, il hésite. Ça doit être à cause de la profondeur du trou ou de la distance. Il s'annonce par un bruit étrange, comme nouveau, à la fois plus sourd et plus feutré que les autres, un ronflement amorti qui se termine en une vrille surpuissante. Le cerveau d'Albert a juste le temps de s'interroger. La détonation est incommensurable. Prise d'une convulsion foudroyante, la terre s'ébranle et pousse un grondement massif et lugubre avant de se soulever. Un volcan. Déséquilibré par la secousse, surpris aussi, Albert regarde en l'air parce que tout s'est obscurci d'un coup. Et là, à la place du ciel, une dizaine de mètres au-dessus de lui, il voit se dérouler, presque au ralenti, une immense vague de terre brune dont la crête mouvante et sinueuse ploie lentement dans sa direction et s'apprête à descendre vers lui pour l'enlacer. Une pluie claire, presque paresseuse, de cailloux, de mottes de terre, de débris de toutes sortes, annonce son arrivée imminente. Albert se recroqueville et bloque sa respiration. Ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire, au contraire, il faut se mettre en extension, tous les morts ensevelis vous le diront. Il y a ensuite 2 ou 3 secondes suspendues, pendant lesquelles Albert fixe le rideau de terre qui flotte dans le ciel et semble hésiter sur le moment et le lieu de sa chute. Dans un instant, cette nappe va s'écraser sur lui et le recouvrir. En temps normal, Albert ressemble assez, pour faire image, à un portrait du Tintoret. Il a toujours eu des traits douloureux, avec une bouche très dessinée, un menton en galoche et de larges cernes que soulignent des sourcils arqués et d'un noir profond. Mais à cet instant, comme il a le regard tourné vers le ciel et qu'il voit la mort approcher, il ressemble plutôt à un Saint-Sébastien. Ses traits se sont brusquement tirés, tout son visage est plissé par la douleur, par la peur, dans une sorte de supplique, d'autant plus inutile que de son vivant, Albert n'a jamais cru à rien, et ce n'est pas avec la poisse qui lui arrive qu'il va se mettre à croire à quelque chose, même s'il en avait le temps. Dans un formidable craquement, la nappe s'abat sur lui. On aurait pu s'attendre à un choc qui l'aurait tué tout net. Albert serait mort, et voilà tout. Ce qui se passe est pire. Les cailloux et les pierres continuent de lui tomber dessus en grêle, puis la terre arrive, d'abord couvrante et de plus en plus lourde, le corps d'Albert est collé au sol. Progressivement, à mesure que la terre s'entasse au-dessus de lui, il est immobilisé, compressé, comprimé. La lumière s'éteint, tout s'arrête. Un nouvel ordre du monde s'installe, un monde où il n'y aura plus de Cécile.